temps peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Si vous êtes un habitué du protestantisme de Montpellier, vous devez connaître François Crespin, qui est aujourd'hui parmi nous. Alors bonjour François.
Bonjour.
Vous définissez comme un paroissien de base.
Oui.
Oui, oui. Je veux bien, mais vous avez été membre du conseil régional PACA, vous avez été membre du conseil national de l'Église réformée de France, je suppose qu'à l'époque c'était Église réformée de France, vous avez été trésorier du conseil régional Cévennes-Languedoc-Roussillon, vous avez pris la direction de la remise aux normes de 3 EHPAD ensuite, ce qui me semble un peu plus que le paroissien de base, non ?
Oui, oui, sans doute. Peut-être, mais c'est sans doute dû aussi à l'engagement qu'avaient mes parents. Voilà, c'est un héritage.
Alors oui, ben justement, on va venir là. Première question, c'est depuis le début, donc depuis votre enfance, depuis le berceau, qu'une bonne fée vous a transmis le protestantisme, ou plutôt qu'une bonne fée a fait cadeau du protestantisme du petit François.
Oui, 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 c'est un don, effectivement, c'est un acquis, je ne l'ai pas mérité, je l'ai obtenu, mais j'ai eu la chance, effectivement, de vivre dans une famille stable, unie, et qui avait des engagements dans le protestantisme, puisque mon père avait 3 frères qui étaient tous pasteurs de l'Église réformée de France. Donc, ça marque. Et donc, mes oncles, que j'ai vus, enfin, j'en ai surtout vu 2, puisque un, malheureusement, a été déporté pendant la guerre et n'est pas revenu d'un camp d'Allemagne. Donc, j'en ai connu 2 jusqu'à leur décès. Voilà. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais ça marque, effectivement. Et donc, mes parents étaient dans une paroisse protestante, luthérienne à l'époque, puisque nous habitions la banlieue parisienne, à Courbevoie, à Légarenne-Colombes, exactement, la banlieue ouest de Paris. Et la paroisse la plus proche était une paroisse luthérienne à Courbevoie. Mais comme mon père disait, ou le pasteur disait, 80% des paroissiens sont des calvinistes, sont des réformés. Donc, je voyais peu la différence à l'époque, quand j'étais jeune, entre luthériens et réformés.
Oui, et alors, vous parlez donc de votre père, de vos oncles, dont l'un a été déporté. Donc, je suppose qu'ils ont vécu l'unité de 1938, c'est-à-dire la fondation de l'Église réformée de France. Au départ, ils étaient dans la même union d'Église, ils avaient la même tendance, ou alors ils étaient de tendances différentes. Vous m'avez parlé du christianisme social. Est-ce qu'ils étaient déjà impliqués dans le christianisme social ?
Alors, non, pas que je sache. Ils étaient avant 1938, ils étaient méthodistes.
Oui.
Voilà. Et en 1938, il y a eu donc l'union des églises, qui est devenue l'Église réformée de France. Voilà. Le christianisme social, mon père a milité au christianisme social au lendemain de la guerre, à partir de 1945. Et
on va peut-être définir d'abord ce que c'est que le christianisme social. Ça sera plus facile pour nos auditeurs de comprendre de quoi on parle.
Alors, oui, c'est un mouvement qui est né en 1880 avec des pionniers qui s'appelaient Wilfred Monod, Charles Gide, Tommy Fallot. L'objectif du christianisme social, ils expliquaient que le christianisme tout court, ça n'existe pas. Il y a le christianisme luthérien, ouais, réformé, méthodiste, baptiste, et il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui est judéo-chrétien, paulinien, johannique, etc. Il n'y a rien qui explique ce qu'est le christianisme, et il est forcément social, car l'évangile est social. Alors là,
on pourrait faire une émission. Bon, voilà. Ça sera peut-être pour
l'objectif,
une autre fois.
C'est de faire passer l'évangile dans les lois, oui, dans les institutions. C'est un christianisme social. C'est un christianisme
politique,
qui veut aboutir.
C'est un christianisme politique dans le grand sens,
oui,
du terme.
Oui. Ouais, disons de gauche, voilà, oui. Il faut pas avoir peur d'employer ces mots-là. C'est la rénovation progressive du monde, des personnalités, des églises, de la société. Comment ? Comment ? Eh bien, avec plus de justice, plus de solidarité, etc. Enfin, améliorer l'individu avec l'éducation, avec voilà, oui. Là on pourrait développer cela autant qu'on voudrait. Le christianisme social, c'est ça. D'ailleurs, quand on est un peu lecteur de la Bible, notamment le Nouveau Testament, le Sermon sur la montagne, les béatitudes, il y a tout là-dedans, sur le jugement. Toutes les fois que vous avez fait cela à un seul des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et toutes les fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est un devoir social.
Oui.
Le chrétien social, il se résume là. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, il y a toute la théologie que j'aime. Voilà.
Et ce christianisme social, donc, il a été très fort donc, à la fin du 19e, début du 20e. Maintenant, on ne retrouve plus les grands titres qu'il y avait, le christianisme social, le christianisme au 19e, tout ça, ça a disparu.
Effectivement, ça n'a pas disparu, ça a été repris. Alors, il y a eu une période, effectivement, très militante, très active. Mon père l'a écrit dans un livre qu'il a écrit, « Histoire des protestants engagés », 1945-1970. Donc, toute cette période-là. Et après, effectivement, il y a eu un déclin, c'est vrai, et ça a été repris dans la revue Autre Temps, qui a succédé à la revue du christianisme social. Il y avait le christianisme social, qui était une revue trimestrielle, et il y avait un journal mensuel, Cité Nouvelle, la Cité Nouvelle, parce que ça a longtemps débattu sur comment on devait appeler le christianisme social. Voilà. Et donc, après, c'est devenu Autre Temps, la revue Autre Temps, mais en dessous, il y a marqué en petit « Cahier du christianisme social ».
D'accord. Voilà. Et vous avez toujours baigné là-dedans, c'est resté quelque chose de fort chez vous, dans toute votre vie.
Oui, parce que je pense que s'il n'y a pas d'engagement, si on ne fait rien, eh bien, c'est le blé qui se meurt. Voilà, donc oui. Et puis j'entendais parler mon père du christianisme social, de ce qu'il faisait, des débats qui les animaient. Il y avait de multiples débats qui sont encore actuels. Voilà, des débats sur l'alcoolisme, sur la prostitution, sur...
Oui. Il faut savoir que le protestantisme de cette époque a été très actif. D'ailleurs, il l'est toujours, dans des mouvements comme la Croix Bleue, donc pour aider les alcooliques à sortir de leurs addictions. Vous parlez de votre père, vous parlez de vos oncles, mais et votre mère là-dedans, elle participait ou qu'est-ce qu'elle faisait? Parce que je m'intéresse aux femmes de pasteur aussi, aux engagements. Qu'est-ce qu'elle
faisait? Elle avait 4 enfants, j'avais 3 frères et sœurs. Donc déjà, elle élevait ses enfants.
Oui.
Déjà, c'est un gros
c'est
travail.
Pas mal, oui, déjà.
Et on a eu une enfance vraiment bénie, très accompagnée, très aimante de nos parents, malgré leurs engagements. Mon père avait une fonction importante à la Banque de France Paris, toute sa carrière a été à la Banque de France. Et ma mère, donc, on ne le voyait pas de la journée, évidemment.
Ouais.
Et ma mère, elle, était engagée au christianisme social, elle assurait du secrétariat. Elle tapait la machine, beaucoup, et elle le faisait bénévolement. Et elle travaillait dans un bidonville à Nanterre, où elle faisait de l'alphabétisation. Il y avait un gros bidonville qui était peuplé de maghrébins qui avaient fui l'Algérie et qui avaient été rapatriés là, et elle assurait de l'alphabétisation. Elle a fait ça très très longtemps, puis elle a milité dans le mouvement Jeunes Femmes et elle a milité à la CIMAD, évidemment.
D'accord, voilà, effectivement.
Mais donc, ça faisait partie de notre environnement.
Voilà, la CIMAD que tout le monde connaît. S'il y en a qui ne connaissent pas, je précise que c'est un mouvement d'aide aux réfugiés qui est très actif actuellement, qui s'occupe notamment des problèmes de visa, de droit de séjour. Et alors, vous m'avez parlé aussi de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur qui est, parlez-en, vous en parlerez mieux que moi. L'influence qu'il a eue sur vous, c'était un ami de vos parents.
C'était un ami de mes parents parce qu'il était... Il a été président du christianisme social, et mon père en a été le vice-président à un moment.
Ouais.
Et effectivement, il se voyait beaucoup, et Paul Ricoeur a dédicacé le livre de mon père, d'ailleurs, par une gentille préface. très élogieuse. Mais oui, c'est un homme que mon père considérait beaucoup, que j'ai eu la chance d'avoir devant moi, à table. Mais j'étais gamin à l'époque. Je ne m'imaginais pas ce que pouvait être Paul Ricoeur. On le voit quand on est beaucoup plus âgé et qu'on cherche des livres écrits par Paul Ricoeur, qui sont quand même des livres de philosophie assez costauds. Hein. Voilà.
Ben c'est le président Macron qui parlait de l'influence que Paul Ricoeur a eue sur lui. Donc oui. Paul Ricoeur, c'est quelqu'un qui est connu au-delà du protestantisme. Et qu'est-ce qu'il a porté, Paul Ricoeur c'était sa vision du monde, c'était son ouverture philosophique, c'était...
Ça, c'est difficile à dire, ouais. J'avoue que c'est sa sagesse, oui. Je ne peux pas bien répondre à cette question-là.
D'accord, ben on va se renseigner sur Paul Ricoeur, parce que c'est un personnage intéressant. Alors, j'ai l'impression quand même que vous connaissez tout le monde dans le protestantisme.
Un certain nombre de personnes.
Tout le monde, dans le protestantisme, tout le monde c'est vite vu. Même s'il y a des apports extérieurs, et tant mieux, il y a quand même des grosses familles, il y a quand même des personnalités qui sont là. Alors, Michel Bertrand... qui a été président du Conseil national, Jacques Stewart. Jacques Stewart, c'est quand même aussi un personnage.
Oui.
Moi aussi, je l'ai connu, mais j'ai fait que l'entrevoir. Je suis allée le voir une fois dans son bureau. Il était président du Conseil régional de Lorraine, Champagne, par là, là-haut, dans le Nord, là. Mais c'est avant qu'il soit connu. Alors Jacques Stewart, vous pouvez nous en parler, parce que c'est quelqu'un qui a eu une action politique.
Oui, il a eu une action politique, notamment en Nouvelle-Calédonie, au moment des accords de Nouméa, puisqu'il est allé en Nouvelle-Calédonie avec le préfet Jean Boyer, etc.
Et Michel Rocard.
Et Michel Rocard, bien évidemment.
Qui était Premier ministre à l'époque.
Oui. Et donc, Jacques Stewart, il a eu effectivement une belle carrière. J'ai eu la chance de l'avoir comme président d'une association œcuménique d'accompagnement pour personnes âgées dans les années de 1996 à 2008-2010 environ. Après, il a passé la main. Et il vit une paisible retraite dans la vallée de l'Eyrieux, actuellement, en Ardèche.
Ah d'accord.
Voilà.
Ah bon, bah c'est bien, on lui souhaite une paisible retraite. Il y a Jean-François Braine aussi, qui est venu à notre micro il n'y a pas longtemps.
Oui.
Qui est donc président de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon, donc de notre région EPUDF. Vous le connaissez bien aussi.
Oui, effectivement. J'ai eu la chance de le connaître quand il faisait son proposanat, son début à Lourmarin, dans le Vaucluse. Puisque moi, j'habitais dans un petit village à côté, entre Aix, en Provence, et Lourmarin, qui s'appelait La Roque-d'Anthéron, où j'étais le secrétaire général de la mairie, là où se déroule actuellement un festival de piano de renommée importante. Et effectivement, Jean-François Braine...
Vous avez des anecdotes sur lui, sympa, parce que c'est comme le président, mais enfin, non, vous n'avez pas...
Il a connu sa jeune épouse Laurence là-bas, à Lourmarin, puisque sa mère était conseillère presbytérale, et j'étais conseiller presbytéral de Lourmarin. Voilà.
Toujours dans le protestantisme.
De bonnes rencontres, voilà. Et j'ai le plaisir de la voir... Le premier dimanche de septembre au Musée du Désert, Jean-François Braine est un fidèle du Musée du Désert et il vient avec son épouse et on se revoit.
Alors, voilà. Le Musée du Désert, pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est... j'explique parce qu'on a des auditeurs qui ne sont pas protestants.
D'accord.
Les protestants, ce n'est pas la peine de leur expliquer le Musée du Désert, ils connaissent tous. Le Musée du Désert, c'est à Mialet, Massoubéran, c'est la maison d'un chef camisard, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Roland. Qui est transformé en musée, comme son nom l'indique, et tous les ans, le premier dimanche de septembre, il y a la grand-messe du protestantisme. C'est l'assemblée du désert avec des pasteurs en robe et puis une assemblée sous les châtaigniers qui chante la Cévenole notamment, qu'on vient d'entendre en générique le début. Voilà, donc voilà pour le musée du désert, l'assemblée du désert. Et puis, vous avez été au Conseil national. Alors, puisque je vous ai sous la main et que je n'ai pas souvent sous la main un membre du Conseil national... Eh bien, je vais vous faire parler du Conseil national. Je ne vais pas vous faire révéler des secrets. De toute façon, vous ne marcheriez pas si je vous demandais des choses secrètes. Mais qu'est-ce qu'on y fait au Conseil national ?
Au Conseil national.
Alors, Conseil national de l'EPUDF, à votre époque, c'était l'Église réformée de France, mais c'est la même chose.
Tout à fait, qui siège à rue de Clichy à Paris. Voilà, c'est là que se tiennent en général les réunions mensuelles des membres du Conseil national, qui sont des membres élus, désignés par le Conseil régional, par le synode régional et désignés par les paroisses. Hein. Je veux dire, tout vient de la base quand même, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est pas un parachutage.
Ça monte du bas vers le haut, ce n'est pas une structure catholique comme les catholiques où ça descend.
Absolument, et il n'y a pas de hiérarchie. Le président du Conseil national, ce n'est pas le pape. Et nous discutons de sujets qui viennent justement de la base, qui doivent être débattus par la base, puis par les régions, puis au niveau national, pour être mis à l'ordre du jour d'un synode régional. Régional, d'abord régional, puis national ensuite.
Le synode, donc c'est l'assemblée générale,
des protestants de France, voilà, protestants réformés de France. Voilà, ça se tient une fois par an et ça dure 3 jours, du vendredi soir au dimanche après-midi, en général au mois de mai. Et profitant d'ailleurs du pont de l'Ascension, ça va du jeudi au dimanche.
Oui.
Voilà, ça ne dure pas que 3 jours, ça dure 4
oui,
jours.
D'accord.
Voilà. Et les sujets qui sont débattus sont des sujets de la vie commune des églises. Quels sont les problèmes dans les églises? Quels sont, tout ce qui peut toucher les églises. Ça peut être des problèmes immobiliers, des problèmes financiers, des problèmes théologiques, souvent des problèmes théologiques d'ailleurs.
Ouais.
Hein? Alors là, les laïcs sont un peu dépassés parce que le synode comprend la moitié de laïcs, la moitié
de pasteurs.
Hein?
Oui.
Voilà, il y a une grande égalité, une grande parité. Y compris femmes et hommes, d'ailleurs, maintenant. Il y a plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs, chez les pasteurs, maintenant. Mais ça, c'est normal. On le trouve aussi dans l'enseignement.
Oui, oui, oui.
Voilà. Donc, ça, c'est pas du tout gênant. Les sujets traités sont très vastes. Très, très vastes.
Faites de la gestion courante.
Oui, de la gestion, oui.
Et puis de la gestion du personnel, quand il y a des problèmes. Et il y en a des problèmes dans le protestantisme.
Il y en a, bien évidemment.
Voilà.
Il y en a. Il y a les problèmes que connaissent,
que connaissent toutes les associations de France et de Navarre.
Voilà, parce que les gens ont des caractères, et ces caractères, eh bien, parfois, s'expriment vivement. Eh bien, il faut les traiter.
Oui.
Voilà.
Et donc, vous voyez des cas passés, des cas de pasteurs.
Il y a une commission des conciliations qui existe quand il y a un problème grave entre pasteurs et paroissiens,
ouais.
Entre paroissiens et pasteurs. Il y a le Conseil national gère la commission des nominations qui doit être nommée dans les différentes commissions. Commission financière, d'animation financière, commission juridique, etc., etc. Commission des bâtiments, commission immobilière, commission... Voilà. Tout ça est traité au niveau du Conseil national. C'est extrêmement vaste. J'avoue que je n'ai pas pris l'ordre du jour d'une séance du Conseil national. Je n'y ai pas pensé.
Mais on n'est pas là. On ne va pas faire une émission sur le Conseil national. J'essaye de faire comprendre aux auditeurs comment fonctionne le protestantisme, parce que ce n'est pas simple.
Non, ce n'est pas simple.
Et là, on parle de l'EPUDF. Il y a aussi la Fédération protestante de France, dont on parle aussi de temps en temps. Et bon, alors, c'est pour ça qu'on ne rentre pas trop dans les détails. Mais on peut se rendre compte que finalement, c'est une association comme toutes les associations. Le fait que ce soit une association loi 1905, ne change pas grand-chose aux lois 1901 sur les associations.
Tout à fait.
À part le fait que, là, dans les associations loi 1905, il y a le fait qu'on a le droit de discriminer les gens en fonction de leur religion. C'est-à-dire qu'on embauche des gens en fonction de leur religion, ce qui est un peu évident.
Oui,
voilà.
Oui, bon.
Mais on embauche des pasteurs, ils sont protestants. Voilà, donc ça c'est la différence majeure.
Oui, ils ont fait
majeure.
Des études de théologie à la faculté de théologie Paris-Montpellier.
Oui. D'accord. Et alors, vous avez eu des cas dont... très difficiles, des pasteurs très compliqués, dont... personne ne veut, ou c'est arrivé souvent, c'est arrivé jamais, c'est arrivé...
C'est pas à moi qu'il faudrait poser la question, c'est au président du Conseil national. C'est arrivé, oui, non, souvent, non.
Non,
ce sont des cas particuliers, non, qui n'encombrent pas l'ordre du jour du Conseil national à chaque session, hein. Pas du tout. Non. Il y a des cas,
oui.
Pas le nier, mais ce n'est pas le plus important.
D'accord.
Je veux dire, ça prend pas toutes les séances. Et puis, le président du Conseil national, c'est un juge de paix. Et il est là, le Conseil national est là pour apporter la paix, pour apporter, trouver des solutions, pour apaiser, et pas pour envenimer les choses. Hein, de
Bien
toute
sûr,
façon.
Je suppose. Voilà. Et il se base, donc, puisque c'est un juge de paix, il se base sur des lois, puisqu'on ne peut pas faire la paix sans avoir des lois. Et les lois, donc, de l'EPUDF, comme de l'ERF, c'est la discipline.
C'est la discipline, mais la discipline, elle relève de l'Évangile. Dans l'Évangile, on peut trouver des lois sur la fraternité, sur l'amour, sur le pardon, sur... Voilà. Donc, oui, il y a une discipline, c'est vrai.
Voilà, la discipline qui est...
qui est acceptée par tout le monde et
oui.
qui est d'ordre très général quand même.
Oui.
Voilà, le... Voilà.
La discipline, c'est la mise, si je peux me permettre, la mise en langage moderne de l'Évangile.
Oui, oui, avec des règles. Mais
oui.
c'est normal. Dans oui. l'Évangile, il y a des règles.
Oui, sinon, oui.
Voilà.
Oui, oui.
Donc, comme les sœurs, les diaconesses de Reuilly, par exemple, ont des règles. Voilà. Saint François d'Assise avait des règles. Voilà.
Oui. Bien sûr. Alors... Vous avez un peu dépassé l'âge de la retraite, je crois.
Beaucoup, de beaucoup.
et même de plus loin que les réformes sur l'âge de la retraite
oui,
ne l'envisagent. Vous souhaitez décrocher et puis finalement, vous n'y arrivez pas. Est-ce que c'est difficile de dire non quand on a été engagé toute sa vie, qu'on est à la retraite et que, bien, on vous demande de faire ceci, cela? Comment on fait pour dire non? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « je ne sais pas dire non ». Alors, si vous avez une recette, ça pourrait m'intéresser. Et puis...
Non, je pense que je suis arrivé à dire non, effectivement. Je n'ai plus d'engagement précis actuellement dans l'église, dans les PUF.
Ouais.
Je suis un consommateur. Je vais au culte parce que c'est là que ma foi s'édifie, lors des cultes, avec les prédications en particulier. Et je suis très passif. J'écoute. J'enregistre, je m'enrichis. Voilà. Non, effectivement, je crois qu'il y a un temps pour tout. J'ai adoré mon travail. J'ai été officiellement à la retraite, effectivement, à 63 ans, mais j'ai fait 11 ans de plus après.
Oui, on va voir. Mais là,
voilà.
vous occupez de l'orgue.
Oh oui.
Enfin, on va en parler, mais c'est en fait pour faire une transition avec le morceau de musique que nous allons passer. Qui est le canon de Pachelbel. Alors, on écoute cette musique. Merci François pour ce beau morceau de musique. Vous pouvez nous dire pourquoi vous l'avez choisi ?
Ah, j'ai choisi ce morceau de musique parce que lorsque j'ai fait la coopération militaire à la place du service militaire, à l'âge de 26 ou 27 ans, j'ai été en Algérie pour faire cette coopération technique et j'ai eu le temps de circuler et de découvrir le Sahara. Et j'avoue que la nuit au Sahara, sous les étoiles, c'est fabuleux. Et j'ai écouté, par hasard, le canon de Pachelbel en pleine nuit. C'est vraiment magnifique. Ce canon de Pachelbel, il est utilisé pour les mariages ou pour les funérailles, essentiellement pour les mariages. Mais c'est une musique qui m'a touché. Pourquoi ? C'est difficile à expliquer. Et puis le Sahara, j'ai eu la chance de rencontrer l'ermitage de Charles de Foucauld, qui était un explorateur, un géographe,
bien sûr.
Qui a été assassiné d'ailleurs là-bas en 1916. Et il y a des descriptions du Sahara, de la nature, de la beauté de la nature. C'est magnifique. Et il y avait également un rapprochement avec Théard, Pierre Théard de Chardin,
oui,
qui est également aussi une personne où, pour lui, toute la création est sacrée. Voilà, c'est un scientifique, un géologue, qui a aussi écrit sur le Sahara. Et bien sûr, le Sahara me fait penser à Théodore Monod.
Ah bah, Théodore Monod,
bien sûr. Théodore Monod, un grand scientifique, un grand naturaliste, un biologiste.
Protestant.
Protestant, un spécialiste. un homme de foi qui n'a qu'un credo. Il écrivait « Le respect de la vie, sous toutes ses formes, parler du désert ne serait-ce pas d'abord se taire, comme lui, faire silence.
Ouais. »
Et effectivement, au Sahara, on fait silence. Et moi, c'est là que je rencontre Dieu, c'est là que Dieu est en moi, que Dieu me parle. Voilà, alors là, bon, Dieu, c'est encore un autre thème, un autre sujet. Mais
oui,
le canon de Pachelbel, je m'en souviendrai toute ma vie.
Ouais.
Ça m'a marqué,
ouais,
ça transcende.
Ouais, ouais.
Voilà, il y a d'autres musiques qui transcendent. Celles de Bach, un contemporain de Pachelbel, peuvent transcender également.
Mais cette expérience de musique dans le désert, moi, je l'ai vécue en Namibie.
Ah.
La nuit, regarder les étoiles et au loin entendre chanter les employés de l'hôtel où on était, enfin qui était un truc dans le désert et qui chantaient des psaumes.
Absolument.
Oui. C'était une expérience mystique inoubliable. Et puis Théodore Monod, moi je le rencontre quand je vais dans le Sahara au Maroc, ou en 2003 dans un hôtel marocain à Zagora, il y avait des affiches sur Théodore Monod, il y avait des extraits. Malheureusement, j'y suis retournée 10 ans après, il n'y avait plus rien. L'islamisation, on est moins dans la période de tolérance des religions.
Un grand monsieur, Théodore Monod, ouais, qui a vécu 98 ou 99 ans, effectivement. Et j'espère, oui, enfin, je vais retourner dans le Sahara au mois de mars-avril. Voilà, et peut-être que j'aurai ces souvenirs-là.
Mais effectivement, et quand on visite le désert avec des gens qui connaissent le désert mais qui ne sont pas protestants, souvent ils connaissent Théodore Monod.
Oui.
C'est malheureusement de moins en moins. Donc, alors on va sortir du désert quand même,
oui,
parce que vous avez aussi, donc vous avez dit que à votre retraite, vous êtes occupé de 3 EHPAD. Alors vous pouvez nous dire comment ça se passe, ce que vous avez fait ?
Oui, effectivement, pendant 11 ans exactement, j'étais dans une association qui s'appelait AO à part, c'est très compliqué, Association des maisons de retraite. Il y en avait une à Cannes, une à Saint-Raphaël et une au Pireux-sur-Marne, dans la banlieue parisienne. Et donc c'était une association d'origine protestante, mais pas seulement protestante et orthodoxe, une association qui avait été créée en 1954 pour accueillir des réfugiés qui venaient de Russie. Et il y a eu un financement provenant d'un ministère, si vous voulez, pour acquérir donc 3 établissements pour y mettre ces personnes réfugiées.
Mmh.
Voilà. Et qui était au cœur de l'activité, c'était que ces personnes soient bien reçues, voilà. Mais les établissements, avec les normes qui s'accumulaient et qui changeaient au fil des années, ne se trouvaient plus du tout aux normes. Oui. Les chambres étaient trop petites. Et puis, la rentabilité était limite parce qu'ils n'avaient que 60 ou 80 places ou 90 places. Or, il semble que les EHPAD, les établissements, soient rentables, entre guillemets, équilibre financier, à partir au moins de 110 ou 120 résidents.
D'accord. Voilà.
Donc là, il a fallu reconstruire ces établissements, trouver un terrain, les construire, et cela s'est fait en 10 ans. Et actuellement, il y a 3 établissements qui sont tout à fait aux normes, avec en tout 440 résidents. L'aide sociale est attribuée à tous les résidents, peut être attribuée à tous les résidents. Et avec ces établissements, c'est la bienfaisance, c'est le bien-être, les gens y sont heureux, le personnel est très très engagé également. Voilà, tout le monde a la même éthique, les mêmes convictions.
Il y a une éthique évangélique, il y a quelque chose...
Oui, les présidents de l'association, ça a quand même été Marc Bögner.
Oui, d'accord. Hein, donc,
protestants connaissent. Ça a été Madeleine Barrault. Madeleine Barrault, présidente de la CIMADE aussi. Ouais. Ça a été Jacques Maury, puis Jacques Stewart.
Oui.
Voilà,
oui.
Je veux dire, de grandes personnalités, effectivement. Donc...
Toujours dans cet esprit évangélique de l'aide aux autres.
Absolument.
Si tu as fait cela à un autre, c'est à moi que tu l'as fait.
Absolument, oui, tout à fait. Et alors, en 2023, donc c'est très récent, cette association a fusionné ou a été absorbée par la Fondation des Diaconesses de Reuilly.
Ah oui, d'accord.
Voilà, qui a les mêmes valeurs de respect des personnes les plus vulnérables, qui gèrent de nombreux établissements sur le territoire.
Qui est une association protestante.
Oui, et qui a des moyens logistiques beaucoup plus importants
et
qui est très expérimentée.
Oui.
En fait, l'association dont j'étais membre pendant 10 ans a vécu 70 ans.
Ouais,
1953-2023.
Ouais.
Maintenant, ce sont les diaconesses de Reuilly qui gèrent ces 3 établissements et ça se passe très bien.
Et alors maintenant, donc votre activité, donc à Montpellier, vous faites...
Je viens de le dire, spectateur-consommateur.
Oui, mais et vous ne faites pas que ça parce que vous êtes là pour remplir les grilles, c'est important, de musiciens.
Oui, disons que ça m'a été demandé, petit service que je rends que depuis le 1er janvier 2024, donc c'est...
D'accord.
2025, c'est extrêmement récent. Remplir le planning des personnes qui ouvrent le temple et des musiciens qui jouent de la musique, de l'orgue ou du piano. Voilà, ça m'a été demandé. Donc je fais ça et j'ai des proposants, j'ai pas de problème pour l'instant. J'ai des musiciens et j'ai des gens pour l'ouverture du temple.
Bon, donc quand on est un organisateur heureux, c'est parfait, on peut continuer même au-delà de l'âge de la retraite. Alors pour terminer... je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes un protestant, d'abord, heureux globalement, et deuxièmement, est-ce que vous êtes un protestant heureux avec les évolutions de l'Église ? Vous en avez vécu, des évolutions de l'Église ?
Oui.
La féminisation, le mariage pour tous, etc.
Oui, mais l'Église évolue et c'est normal, et l'Église avec son temps. Imaginez le Christ qui revienne sur terre maintenant. Il serait complètement déboussolé. Il a vécu il y a 2000 ans dans un milieu juif avec les us et coutumes de l'époque.
Oui.
Voilà, donc ici, actuellement, il faut évoluer. Je trouve que l'Église évolue, oui, et... Dans la mesure, oui, je suis heureux d'être protestant parce que je crois vraiment aux trois, la grâce seule, l'écriture seule et la foi seule qu'on pourrait développer.
Oui, on n'a plus le temps.
Mais c'est fondamental.
Ouais.
Donc ça, effectivement, oui, je suis heureux d'être protestant, très heureux. Je ne le regrette pas.
D'accord. Et l'Église, c'est pareil. Enfin, de cette Église, l'Église dans laquelle vous êtes, ces évolutions, vous ne trouvez pas que ça va trop vite ou que...
Ça va trop vite, je ne sais pas. Non, ce que je pourrais regretter, c'est constater, on dit qu'il y a de moins en moins de jeunes qui pratiquent, de moins en moins de protestants qui pratiquent, de moins en moins de monde occulte, etc., etc. Mais il y a toujours quand même quelque chose qui se fait.
Ouais.
Et il peut y avoir des temps de latence, et puis il y a des réveils. L'Église a toujours connu des hauts et des bas.
Oh oui.
Voilà. Donc, non, Voilà, non, ça ira. Moi, je fais confiance à Dieu.
Et puis, il y a d'autres moyens, effectivement, que le culte. Bon, oui. Les enfants ne vont plus beaucoup à l'école biblique, mais il y en a qui viennent plus tard.
Absolument, absolument. Il y a toujours des mouvements de jeunesse, il y a toujours des actions sociales qui se font. Les jeunes et les moins jeunes y sont engagés. À Montpellier, il y a des œuvres sociales, entre guillemets encore, oui, qui fonctionnent très très bien, même trop bien à la limite. Voilà. C'est un autre sujet.
D'accord. Bon, bah alors, d'autres sujets pour des prochaines fois. Alors, ben, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait encore parler beaucoup, mais on arrive à la fin. Donc, eh bien, je vous remercie, François. Et puis, je remercie nos réalisateurs, Yann et Léonie. Et je remercie, bien sûr, nos auditeurs, nos fidèles auditeurs. Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et n'oubliez pas de réagir à un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org. Merci.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.